Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canut, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. À tout de suite. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est Idées Noires, donc, et on va commencer tout de suite.
Toujours par les traditionnelles annonces, donc du coup, bonsoir à toutes et à toutes. On a pu voir quand même que la technique était beaucoup mieux gérée ce soir, hein. On ne dira rien, un petit clin d'œil à notre absent du soir, j'espère que tu nous écoutes, hein, et que tu vois, j'espère que tu as bien vu la différence quand même, hein. Il te reste encore beaucoup de chemin à faire. Donc voilà, on démarre par les annonces.
Ouais, on va démarrer par les annonces. Il y a une petite annonce. Donc, pour résumer, c'est un camarade en fait qui est salarié de Medialis, donc qui est en grève de la faim. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que Medialis avant, et puis pour vous expliquer un peu les raisons. Donc, les salariés de Medialis, donc on appelle les amis TCL dans le réseau TCL. En gros, leur boulot, c'est de s'occuper de la gestion de flux, de s'occuper de savoir qui rentre pas, les informations.
L'accueil, c'est l'accueil.
C'est ça. Et ils ont pas mal de conditions bien dégueulasses. Donc
Medialis, c'est un sous-traitant TCL, du coup du Citral, et du coup forcément.
C'est ça, voilà. Et donc en tant que sous-traitant, c'est de la merde. Et donc ils ont des conditions de vie et de travail, de fait, qui se dégradent pas mal. Donc le temps d'aller aux toilettes est compté. Il y a du racisme qui est fait par souvent les gestionnaires un peu plus haut, leurs supérieurs les écrasent comme c'est souvent le cas, il y a des remarques, des comportements sexistes, etc. Et un climat délétère qui est fait par la direction entre les camarades qui sont syndiqués, donc insolidaires pour être exact, et ceux qui ne le sont pas. Et donc du coup il y a un camarade, donc là je vais vous lire le petit texte qu'il a écrit.
Du coup il y avait un mouvement de grève au mois de janvier,
voilà,
c'est ça?
Un mouvement de grève au mois de janvier.
Ouais, devant le siège.
En fait il y avait une camarade de Medialis qui était syndiquée à Solidaire ils avaient essayé de l'expulser, c'était pour être exact, comment on appelle ça? Ah, je sais plus exactement le terme exact, mais en tout cas elle était renvoyée sans solde en attendant qu'il
sort.
Une mise à pied compensatoire, je crois, un truc comme ça. Et donc du coup, parce qu'elle avait protesté contre les contrôleurs et la police qui menaient un contrôle...
T'as dit du coup.
Ouais, sur un jeune de 15 ans, voilà. Et donc je vous lis le petit texte. Donc soutien à Ahmed, camarade employé chez Medialis Lyon, dans des conditions de travail intolérables. Donc Ahmed est en grève de la faim depuis 2 jours devant le siège de son employeur afin de réclamer de meilleures conditions de travail, en particulier la fin du harcèlement dont lui et ses collègues sont victimes. Face à la précarité et au pouvoir du patronat, seule la lutte paye, solidarité.
Donc il fait sa grève de la faim, donc il est la journée dehors, il est devant le siège de Medialis qui est rue Sala dans le deuxième, voilà. C'est ça.
Tu peux donner les horaires aussi?
Non, les horaires je les ai pas, désolé.
Tu les as pas?
Non, mais c'est pas très grave après. Mais du coup, si vous voulez passer en solidarité, lui dire bonjour, rester un petit moment avec lui, lui montrer un peu de solidarité, il n'y a pas de souci, vous y passez, ça fait toujours du bien, ça redonne un peu du peps. Pour lui, donc n'hésitez pas à passer. Donc c'est rue Sala, Medialis.
Je peux vous donner les dates, par contre, pour le coup, c'est de 9h à 17h30. Voilà.
Donc devant, il sera là-bas. Voilà. N'hésitez pas à aller le voir. Donc voilà, donc petit écho de lutte, puis de rendez-vous, parce que du coup, vous pouvez vous rendre sur place à partir de demain si vous le souhaitez. Et donc on va enchaîner du coup avec autre chose, ça se passe ce week-end, il me semble.
Ouais, c'est ça. Donc ce week-end, il y a une bouffe en soutien au local de La Ruche. Alors voilà, donc je vais vous lire un peu le petit communiqué. Pour la date, c'est le samedi 4 mars à partir de 19h30 et c'est prix libre. Face aux charges mensuelles liées à notre local, notre situation financière est difficile. Une bouffe de soutien à prix libre à organiser le samedi 4 mars à partir de 19h30. Présentation de la ruche. Actuellement, la ruche comprend une douzaine d'adhérents qui versent entre 5 et 20 euros par mois en fonction de leurs possibilités. Le local a fait le choix de ne pas demander aucune subvention municipale pour garder son autonomie d'action et ne pas dépendre d'une municipalité qui, par ses choix politiques, ne nous correspond pas. Cette démarche d'autogestion nous permet de pouvoir organiser plusieurs fois par mois des concerts de soutien au peuple opprimé. Chaque soirée est gratuite et suivie d'un repas à prix libre permettant à toute personne de pouvoir accéder à une certaine information. Généralement, les bénéfices de ces soirées nous servent de trésorerie pour payer notre local, mais nous tenons également à ce qu'une partie des sommes puisse être redistribuée directement aux populations opprimées. Une bibliothèque alternative composée de 70 bouquins permet à toute personne de pouvoir accepter gratuitement à une autre lecture. À ce jour, différents collectifs sont hébergés à la ruche, la CNT Interpro Villefranche, le collectif Caladois pour le peuple palestinien, le collectif de soutien aux sans-papiers, le groupe local de la NEF, Right to Movement, Impact, Kin Keliba, Madrasa du Sourire, le comité Action Solidarité, le collectif Notre-Dame-des-Landes, Assirem, ainsi que des individus et individus avec un E, mais ça se fait pas pour ça, intéressés par ce qui se vit dans le local. Nous souhaitons que d'autres organisations et individus nous rejoignent. N'hésitez pas à nous contacter. Organisations et individus soutiennent financièrement le local à hauteur de leurs possibilités. Venez nombreux nous rencontrer autour de Lasagne le samedi 4 mars à partir de 19h30.
Donc voilà, ouais, la rue, c'est un petit local bien dynamique là-bas. Donc voilà, c'est effectivement avec les charges mensuelles, c'est pas évident à tenir. Du coup, on va une autre activité qui aura lieu le 4 mars, mais du coup, un peu loin de Lyon. Mais si vous voulez vous amuser un petit peu à Béziers, c'est le moment.
Voilà, à Béziers, donc ce samedi 4 mars à 11h, il y aura un rassemblement contre les islamophobes. Donc à Béziers, ce samedi 4 mars, à l'épaule Riquet. C'est un rassemblement contre le colloque de Robert Ménard, donc le maire de Béziers, qui s'intitule « Désislamisation de l'Europe, comprendre et agir ».
Merci Robert.
Donc le rassemblement est ouvert à toutes et à tous. Rendez-vous devant la statue de Paul Riquet. Donc le palais du congrès abritera la colloque « Désislamiser l'Europe, comprendre et agir », présidée par Robert Ménard. Il faut le plus, Robert Ménard, qui est donc un maire proche du FN, proche du Rassemblement Bleu Marine, a l'ambition de faire de Béziers le point de rencontre de toutes les extrêmes droites d'Europe. Cette fois-ci, c'est l'islamisation de l'Europe qui serait un danger pour nos pays. Notre façon de vivre, notre culture serait menacée par ces nouveaux « barbares », entre guillemets, les musulmans et musulmanes de France. Ils sont représentés comme un corps étranger qui est en train de gangréner, entre guillemets toujours, l'ennemi intérieur. Robert Ménard et ses amis utilisent la ville de Béziers comme rampe de lancement de ces mouvements d'extrême droite qui prônent que division, haine et stigmatisation. Leur racisme et néofascisme cherchent à dresser entre elles des catégories de la population. Le maire de Béziers offre une tribune à toute une brochette de représentants ultra-réactionnaires et identitaires. Hasard du calendrier, ce colloque sur la désislamisation de l'Europe intervient 4 jours avant que Robert Ménard ne soit jugé devant la 17e chambre correctionnelle de Paris pour provocation à la haine après avoir affirmé qu'il y avait trop d'enfants musulmans dans les écoles de sa ville. Pendant ce rassemblement contre les colloques des islamophobes européens, nous proclamerons une fois de plus notre volonté de vivre la manière solidaire. Chacun pourra exprimer ses sentiments et les manifester. Un repas tiré du sac permettra, dans l'espace public, la poursuite du partage et des cultures. Ce rassemblement est déclaré à la préfecture. Cette initiative est ouverte à toutes et à tous. 100% anti-FN, unis contre l'extrême droite et ses alliés. Rassemblement à Béziers, le samedi 4 mars à 11h. Allez, Paul Riquet.
Tu l'as pas fumé cet article?
Non. Donc voilà, si vous voulez vous amuser un petit peu à Béziers, n'hésitez pas. Toi, t'en as une autre encore?
Moi, j'ai encore un petit peu d'infos.
Vas-y.
Du coup, il va y avoir une auto-formation au droit du travail. Donc ça se passe sur Lyon. Et ce sera le jeudi 9 mars à partir de 19h. Pendant le cafeton, donc au local de la CNT, 44 rue Burdeau, pour être exact, ouais, dans le premier. Donc je vais vous lire un petit peu le petit texte qui va avec. L'Union départementale des syndicats CNT propose de faire une auto-formation sur le droit du travail basique, sur les différents types de contrats de travail, le contenu d'un contrat, d'une fiche de paye et comment lire les conventions collectives. Des militants de la CNT seront présents et présentes. Tu peux y venir avec ton contrat, ta fiche de paye, ta convention pour y former collectivement. Alors c'est indiqué qu'il y aura aussi un accès internet. Alors je ne sais pas si c'est un clin d'œil pour moi, mais...
Non, du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à vous rendre. Donc le cafeton, c'est tous les jeudis soirs, du coup, à la CNT au 44 rue Burdeau. Et puis du coup, là, sur une thématique importante, voilà, sur le droit du travail. On continue, c'est du côté de d'Annonay ou de Saint-Julien-Molin-Molette. Il y a les semaines anticoloniales et antiracistes qui se déroulent à partir de demain, du 2 mars jusqu'au 30 mars. Alors c'est un petit festival qui se passe sur les deux communes, avec des projections, une exposition sur l'état d'urgence et des débats. Voilà, on vous laisse aller sur le site. C'est organisé du coup par l'ASTI, Bassin d'Annonay. Donc c'est Association de solidarité avec toutes et tous les immigrés, voilà, qui est une association antiraciste, féministe et anti-homophobe, anticolonialiste et anticapitaliste, aussi par l'association France-Palestine Solidarité et par l'association Survie. Donc voilà, on vous conseille, voilà, notamment, voilà, il y a quelques débats qui ont vraiment l'air très intéressants. Il y a l'exposition État d'urgence, c'est demain, ça c'est à Annonay. Le 30 mars, il y a du coup animation sur la France-Afrique, du coup avec Survie notamment, puis il y aurait pas mal de documentaires qui ont l'air très intéressants, donc on vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Une autre activité, ce sera la semaine prochaine, mais j'en parle déjà. C'est une conférence débat sur le droit des femmes en Arménie, avec une rencontre avec Lara Aharonian, pardon, figure centrale des luttes féministes en Arménie et fondatrice et directrice du Centre de ressources des femmes à Erevan. Donc il y a deux activités, enfin il y a deux dates. Il y a le mercredi 15 mars à Paris, Péniche Anako, et le jeudi 16 mars à Lyon, espace Gerbis Manoukian, dans le 3e, c'est au 295 rue André Philippe. Voilà, on vous conseille d'y aller aussi là-bas. Si vous êtes du côté de Nanterre, voilà, on fait un petit tour, hein, ça se passe demain. C'est une journée de soutien à Antonin et à tous les inculpés du mouvement social. Donc Antonin, on avait parlé à Antonin Bernanos, hein, qui était incarcéré depuis 9 mois à la prison de Fleury-Mérogis. Il est accusé par un témoin sous X qui s'est avéré être un policier du renseignement, d'avoir participé à l'attaque d'une voiture de police lors du mouvement contre la loi travail. Et donc il y a une journée de soutien avec des tables rondes, police, justice, prison, voilà. Donc ça a l'air aussi pas mal, c'est du côté de Nanterre. Et entrement, mercredi prochain, mercredi 8 mars, donc un peu avant l'émission de radio. Donc le 8 mars, eh ben, c'est la grève des femmes. Il y a un appel à l'action et à la grève pour le droit des femmes. Je vous lis un peu le petit topo. Donc la journée du 8 mars ne se fête, entre guillemets, pas par un cadeau ou une distribution de fleurs. Ce n'est pas la journée de la femme, mais une journée internationale de lutte pour le droit des femmes. En 2017, le contexte politique, social et économique international comme national n'offre pas de répit pour tous et toutes celles et ceux qui œuvrent à plus d'égalité et de justice sociale. La banalisation des idées d'extrême droite, la montée des conservateurs dans les élections aux États-Unis, dans différents pays européens notamment, la répression du mouvement social sont des signes inquiétants pour nos droits. Donc voilà, et il y a un appel. Un rassemblement de 15h40 à 18h, place de la Comédie, dans le 1er arrondissement, métro Hôtel de Ville, pour refuser le travail gratuit et exiger l'égalité professionnelle. Donc il y a un appel, donc, à un arrêt de travail à 15h40. 15h40, on vous le rappelle, hein, ça passe de ce store-là pour les femmes qui ont le même diplôme, le même travail, qui a le travail bénévolant, parce qu'elles sont moins payées. Donc voilà, bon, du coup, il y a des petites raisons qui sont là, je vous les fais vite fait. Hein, faire grève parce que les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes. Le travail domestique est encore à la charge des femmes à hauteur de 70%. Elles sont 30% à travailler à temps partiel. Elles sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement. Elles n'ont pas de déroulé de carrière. Elles gagnent moins de primes, d'heures supplémentaires. Elles touchent 39% de moins que les hommes à la retraite. Donc, toute une bonne raison pour se mettre en grève le 8 mars. Et donc voilà pour les annonces, on a été assez complet. Ah, t'en avais une autre, pardon.
Vas-y, je t'en prie. Sur Montpellier aussi.
Vas-y, on fait le tour de la France.
Allez.
C'est parti.
Du coup, sur Montpellier, ce vendredi 3 mars, à partir de 18h30, à l'Utopia 003. Donc il y a un débat sur la criminalisation du mouvement social, avec entre autres donc Cédric Héroux, habitant de la vallée de la Roya, condamné pour avoir été solidaire avec les migrants. Donc on en avait parlé ensemble à la radio.
Ouais.
Voilà, donc il y aura les camarades de la CGA qui seront présents aussi à cette action. Ensuite, le lendemain, donc le samedi 4 mars à 15h, toujours au Lutopia, donc 42 rue Proudhon, on ne l'invente pas, le collectif Bienvenue Migrant 34, dont la CGA, en tout cas Montpellier, fait bien partie prenante, invite à une discussion sur être solidaire aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Partage l'expression de solidarité avec les personnes migrantes et toujours en présence de Cédric Héroux, militant de la vallée de la Roya, inculpé pour délit de solidarité. Et voilà.
Ok. Bah, du coup, on était bien complet. Et pour démarrer concrètement l'émission, avant de faire une première pause musicale, moi, je voulais vous lire un petit texte que j'ai retrouvé. Alors, je ne sais plus si on avait déjà lu à la radio, mais ça date au moins d'un an, donc on va être pardonné vite fait. Vous aurez peut-être pas écouté cette émission-là. Voilà, c'est pour lancer un petit peu, il y a une campagne anti-électoraliste positive qui va être lancée au niveau de la CGE, au niveau fédéral, dans les jours et semaines qui viennent. Donc on fera sûrement peut-être une émission spéciale là-dessus, parce que du coup il y a une brochure 4 pages qui va sortir. Et ce petit texte que j'avais trouvé sur le blog Brasier et Cerisier, voilà, sur, le, sur l'abstentionniste justement, et ce texte s'appelle « Ce sera pas ma faute, ça sera pas ma faute ». Donc ce texte, explique au départ, était à la première personne parce que je l'utiliserai en conversation directe avec l'entourage. Ce n'est cependant pas un ego trip narcissique, l'argumentaire étant largement valable pour un collectif. On démarre le texte. Je ne voterai pas aux élections à venir en 2017 comme pour pas mal des scrutins précédents. Je serai abstentionniste politique, c'est-à-dire que ne pas participer à un scrutin relève pour moi d'un acte politique et non du désintérêt. S'abstenir parce que aucune envie de participer à cette farce démocratique entre guillemets où les choix, les thèmes et les modes de décision sont imposés par la structure actuelle, l'État bourgeois qui est au service du capitalisme pour faire court. S'abstenir parce que le refus de remettre une pièce dans le jukebox démocratique pour passer une énième fois le disque libéral progressiste du entre guillemets ça va aller mieux. Un peu moins d'injustice et plus de bien-être. Ah tiens, en fait non, tentez à nouveau votre chance dans 5 ans. S'abstenir parce que le « c'est quand même moins pire » est une façon de retarder l'explosion tout en renforçant son rayon d'action. S'abstenir parce que participer, c'est accepter les termes du débat et le fonctionnement d'institutions que je vais voir disparaître. Ce texte, posté bien avant donc ces élections, vaut comme un avertissement à ne pas venir me faire chier pendant et après. Quand il y aura un fameux choc, entre guillemets, un séisme, un nouveau 21 avril, ajoutez ici le titre de Libé qui vous fera plaisir. Non, ce ne sera pas de ma faute. La montée-victoire de l'extrême droite, de la droite, elle repose sur plusieurs choses qui la précèdent. Un échec cuisant de la social-démocratie sous ses formes libérales, parti socialiste ou plus radical, front de gauche et ses évolutions ratées. À incarner une quelconque alternative ou un quelconque projet d'amélioration du sort des salariés. Et pour cause, dans un cas PS, les 5 ans d'exercice du pouvoir ont montré qu'il faisait, zéro surprise, de bons serviteurs des patrons, Annie, CICE, pacte de stabilité, loi Macron 1 et 2, loi travail, casse de la sécu, des hôpitaux et des services publics en général, 3 petits points. En appliquant la même politique sécuritaire que leurs prédécesseurs, répression des jeunes, des minorités, des syndicalistes, des mouvements sociaux, fichage, militarisation de la police, intervention impérialiste. Côté entre guillemets radicaux, le programme se voulait peut-être alternatif, mais entre querelle d'ego et bureaucratie, tribun chauvin et renoncement, on peut dire que la révolution entre guillemets citoyenne promise peut attendre debout tous les soirs à République. Peut-être aussi parce qu'un changement radical ne peut pas arriver par une élection, échec à tous les étages. Et pour cause, l'échec de la social-démocratie est un peu inscrit dans son histoire. Une fois au pouvoir, un gouvernement, fût-il animé d'ambition entre guillemets sociale, devra composer avec les rapports de force en présence, ce qui nous amène au point suivant. Des luttes sociales un peu en panne, question victoire, et pourtant les luttes sont nombreuses. Grèves, occupations, manifestations, réseaux, initiatives de solidarité, mais voilà les usines fermes. Les mobilisations syndicales se finissent en eau de boudin, les lois passent et les patrons jubilent. La perte de confiance dans les outils historiques du prolétariat, l'effondrement continu du taux de syndicalisation, la perte de combativité des centrales syndicales, l'atomisation de nos boulots et nos vies sont le terreau du repli individuel, de la peur, du déclassement, de la précarité, du chômage, qui conduisent globalement au désespoir. Désespoir qui peut se traduire de diverses manières, électoralement, hein, abstention, dégoût, vengeance, mais dans tous les cas qui visera à rejeter le pouvoir en place. Tout est à reconstruire au niveau syndical, au niveau de la conscience de classe, tout est à reconstruire aussi en matière de rapport de force avec le patronat. La droitisation, entre guillemets, du discours et le triomphe des idées réactionnaires via divers canaux, mobilisation intégriste, homophobie et raciste, besoin du gouvernement actuel d'afficher une fermeté, entre guillemets, et un nationaliste qui le conduit, comme toujours, à imiter les plus réacs que lui. Il n'y a pas que la, entre guillemets, droite décomplexé et le FN qui favorise le rejet des immigrés et minorités. Les discours d'un Valls, d'un Cazeneuve sur plus de contrôle de frontières ou d'un Mélenchon sur les travailleurs détachés font que même avec un badge antiraciste, finalement, chacun en viendra à se demander si l'immigré est vraiment le bienvenu. Un ministre, entre guillemets, de gauche parle de nègre qui était pour l'esclavage. Ça s'embrouille sur le burkini, de Sarkozy à Mélenchon, encore, ça nous cause de nos ancêtres les Gaulois et du roman national. Ça dit qu'il faut écouter les policiers qui manifestent armés dans les rues au cri de « Français, réveille-toi, tu es ici chez toi, on est chez nous ». Et il y a les actes aussi, expulsion de Calais, la chasse aux sans-papiers qui se poursuit, le pouvoir qui se comporte en colon en France comme à l'étranger. Enfin, un refus d'une partie de ceux qui prétendent combattre l'extrême droite de sortir du discours entre guillemets, le FN, c'est le vote des bouseux, des incultes devant TF1, des gros cons, des vieux. Attention, je ne dis pas qu'il faut légitimer les discours du FN en épargnant ceux qui votent pour lui. Il ne faut pas aller consoler et cajoler ceux qui affirment leur haine de l'étranger, de l'homosexuel et du juif en se lâchant dans l'isoloir. Par contre, il faudra songer à trouver une alternative au mépris de classe pour combattre l'extrême droite. Ça ne marche pas. En plus, c'est nul parce que ça renforce l'idée que le FN percerait spectaculairement dans les milieux populaires alors que sa progression électorale et idéologique concerne largement aussi les milieux moins modestes, voire les plus riches, plus diplômés, les jeunes en école de commerce et les cadres, les urbains, les connectés, etc. Il y a tout un tas d'autres facteurs. Je n'ai jamais prétendu en faire la liste exhaustive, mais en tout cas, ce ne sera pas ma faute parce que moi, vois-tu, toutes les causes évoquées ci-dessus, ça fait des années, et notamment ces 5 dernières que je les combats, à mon échelle, associative, syndicale, individuelle, dans la rue, au quotidien, sur Internet, avec une efficacité dont je doute chaque jour autour de moi aussi. Mon bulletin de vote, entre guillemets, ce sont mes journées de grève, de manif, mes matinées de tractage, mes soirées de collage, mes modestes soutiens financiers aux camarades dans la mouise ou à leurs projets, mes quelques coups de main des dossiers complexes, mes pétages de plomb à la machine à café quand les collègues veulent bien les entendre, mes critiques, mes slogans, mes affirmations, mes capsules de sérum fille vidées en fin de manif, mes cernes sous les yeux. Donc viens pas me faire chier avec ton vote utile, de barrage ou d'espoir, j'ai déjà voté. Ça fait beaucoup de moi, dans ce texte, mais ce n'est pas pour réclamer une médaille du bon activiste ou jouer au moins de soldat. Chacun fait ce qu'il peut, comme il peut, tout le monde n'a pas du tout les mêmes possibilités, les mêmes choix. D'ailleurs, je n'aurais rien fait de tout ça, ce serait la même. Une abstention est un acte politique en soi, un refus, le début de quelque chose. Et une fois l'élection passée, je continuerai. Grève, manif, action contre le pouvoir en place. Alors si tu viens avec un discours du type « fallait voter maintenant, c'est la démocratie, il faut assumer les résultats et accepter les décisions », eh ben non. D'abord, encore une fois, parce que je refuse cette démocratie, j'en ai précisément refusé les règles du jeu. Donc j'affirme être en droit de combattre le pouvoir qu'elle soutient. L'idée selon laquelle l'abstentionniste et le votant devraient tout accepter pendant 5 ans parce que 50,00001% des électeurs ont choisi tel ou tel est une escroquerie. Personne ne le fait jamais d'ailleurs. Droite et extrême droite ont passé 5 ans à explicitement refuser la légitimité du pouvoir en place et la loi qui a clivé celle du mariage pour tous. Donc bon, je ne sais pas d'où vient cette règle que refuser de voter devrait conduire à en accepter le résultat, mais on va tout de suite l'oublier. Voilà, je préfère qu'on ait cette discussion maintenant que début mai 2017, parce qu'à ce moment-là, il ne faudra vraiment pas compter sur moi. Te voilà prévenu, ami des urnes, ce ne sera pas ma faute et pas forcément de la tienne non plus. Donc voilà pour ce petit texte. Bon, il y a des trucs qui ne m'allaient pas, moi, personnellement, là-dedans. Voilà, mais en tout cas, ça mérite d'être assez clair. Voilà, parce que je pense que cette discussion-là, quand on parle à des collègues, à des amis, à des voisins, sur le fait qu'on ne vote pas, on est tout de suite accusé de tout. Et on y reviendra bien plus précisément dans cette brochure 4 pages qu'on sortira très bientôt. Donc voilà.
Voilà, il y aura peut-être aussi des... On verra aussi, mais il y aura sûrement des événements aussi qui sont...
Voilà, oui, clairement, oui. À la plus noire et peut-être ailleurs pour peut-être ailleurs en aussi. Parler tranquillement. Voilà. Petite pause musicale, du coup.
Ah, ouais. D'accord.
Oui, c'était prévu, je crois. Hein.
Oui. Il y avait autre chose, mais enfin bon, tant pis, on fera.
C'est vrai, il y a autre chose, bah, c'est pas grave, on fera après. Arrête, on va.
Oui, bah, on va écouter Anne Sylvestre qui nous interprète Xavier.
Quand il était encore bébé, Xavier, voyant sa mère qui pouponnait son cadet, voulant tout faire comme maman, tendrement, longeait et berçait son ourson, sans façon. Vous voyez, qu'il était bien disposé. Mais les parents, apprenant qu'il était tendre et maternel, lui rebelle de tomber à bord raccourci, sans merci. Sur la pauvre maman tranquille, malhabile. Vous voyez, qu'elle n'y avait pas pensé. Il lui prédire avec terreur, quelle horreur, qu'il allait être, paraît-il, pas viril. Dire qu'il fallait mettre aussitôt une auto dans les mains de ce petit mal anormal. Vous voyez, à quoi on peut échapper. Mon Xavier n'a pas protesté, pas pleuré, a enroulé vaille que vaille la ferraille dans le mouchoir de sa maman tendrement, puis il a fait faire dodo à l'auto. Vous voyez, qu'on pouvait bien s'inquiéter. Je dois pourtant vous rassurer sur Xavier. Il a passé sans avenir son permis. Ses sentiments pour son auto sont normaux. Tous ne peuvent pas en dire autant. bien souvent. Vous voyez, tout finit par s'arranger.
Voilà, c'était Anne Sylvestre qui interprétait donc Xavier. Vous êtes toujours à l'écoute de Idées Noires, donc sur le 102.2 de Radio Canu, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. On va aborder une deuxième page avec quelques sujets. Donc il y a l'hébergement, les migrantes, des rafles, enfin bref, tout un patchwork de ce qui nous arrive aujourd'hui, quoi, bien sûr. Allez, oui. C'est parti les gars.
Oui, donc voilà, récemment, donc, la préfecture et la maire de Lyon donc, ont des problèmes avec l'hébergement. Donc c'est un communiqué du collectif Jamais sans toi. Retour sur ces dernières semaines. Ouverture et fermeture de gymnases et politique d'hostilité vis-à-vis des enfants sans logement qui ont le tort d'avoir des parents qui ne sont pas en situation régulière. Le collectif Jamais sans toi dénonce la situation des familles sans logement depuis le mois d'octobre. La préfecture a ouvert le gymnase Louis Chanfray dans le 2e arrondissement le mardi 3 janvier, puis hésitait à ouvrir le gymnase Clémenceau, jugeant que les 40 places libérées ce jour-là suffiraient à accueillir les sans-abri qui en feraient la demande. Alors que ce même week-end, c'est au moins 260 personnes qui ont accédé aux 115 sans avoir de solution. Il faudrait facilement atteindre le 16 janvier pour que le préfet décide d'ouvrir 200 places supplémentaires. Une salle de sport à Oulin, une autre dans le 2e et enfin le gymnase Clémenceau dans le 7e. Ces ouvertures n'ont néanmoins pas été suffisantes pour mettre à l'abri tous les enfants scolarisés que le collectif a recensés. 40 enfants, soit 25 familles, ne se sont pas vus proposer de solution. Et dès que les températures ont remonté à partir du 30 janvier, ces gymnases ont progressivement été fermés et les familles ont retrouvé la rue. Alors que pourtant il est difficilement concevable que des enfants, notamment en bas âge, passent la nuit dehors alors qu'il fait 0 degré. Cela ne semble pas émouvoir ni la mairie de Lyon, ni la préfecture. En effet, nous rappelons que Gérard Collomb, en tant que maire de Lyon et président de Lyon Métropole, est propriétaire de centaines de logements vides. Le collectif Jamais sans toi et les familles sans logement sont donc confrontés à des autorités dont le seul but est de rendre les conditions de vie des enfants scolarisés terriblement compliquées. Cela au mépris de la loi française, donc l'article 345.2.2 du Code de l'action sociale et des familles qui force la loi et stipule « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence ». Et ce, uniquement car les parents ont le tort de ne pas être en situation régulière. Le préfet ne cesse de vouloir faire croire que ces familles, notamment les familles albanaises, sont liées à la mafia. Le collectif Jamais sans toi dénonce cette volonté de criminalisation des autorités. Le collectif répond que des enfants de 3 à 15 ans n'ont rien à voir avec la mafia et que la loi française, comme toute la convention des droits de l'enfant que la France a signée, devrait les protéger et que les autorités devraient leur permettre de suivre beaucoup plus sereinement leur scolarité. Le collectif Jamais sans toi dénonce également l'attitude de la ville de Lyon et la mairie de Lyon 3. Des familles hébergées dans des gymnases sont réinstallées dans le parc Jugan, non loin de la gare Pardieu. 3 jours plus tard, elles ont été chassées par la police sous prétexte que les pelouses du parc devaient être restaurées.
Il y a toujours des bonnes excuses en fait pour virer les gens, c'est formidable.
Pouvant laisser croire que les familles installées ici en novembre et en décembre pouvaient être responsables de la dégradation des pelouses. Or, ceci est faux, car les familles étaient sous les pins, où il n'y a pas de pelouse. La police leur a clairement fait comprendre qu'elle pouvait s'installer plus loin, ce qui signifie que M. Philippe et ou M. Collomb souhaitaient simplement que la misère ne soit pas trop visible dans leur ville. Le collectif rappelle qu'en janvier, les services municipaux ont déjà jeté 15 mètres cubes d'affaires appartenant aux familles, dont des jouets d'enfants. Le collectif Jamais sans toi dénonce aussi le cynisme dont sont l'objet les personnes. Certaines se sont vues proposer un hébergement à la sortie du gymnase. On leur a indiqué par exemple oralement un hébergement dans un hôtel de la Croix-Rousse ou à 20 minutes. Une fois sorties du gymnase, on leur lisait ce qui était écrit sur un bout de papier. L'hôtel à proximité était le campanile de Chasse-sur-Rhône, donc à 25 km de Lyon, sans aucun moyen financier pour y aller. Pour une famille, il était mentionné sur un papier Châtillon OVE22, rue Patel 6909. Je ne vais pas donner le numéro, laissant croire un hébergement sur Lyon 9e. En fait, il s'agissait d'un hébergement à Châtillon-d'Azergues, donc qui est à 25 km de Lyon.
De l'autre côté, du coup, mais voilà,
vers l'Arbrel, voilà, pour ceux qui connaissent dans la vallée d'Azergues. et non dans Lyon 9. De plus, certaines tromperies inacceptables et intolérables. Sur cette distance, avec cette distance, les enfants ne pourront plus continuer leur scolarisation à Lyon. Le collectif Jamais sans toi salue la mobilisation qui se poursuit sur de nombreuses écoles, donc Berthelot, Général Dru, c'est ça ?
Ouais, Gilbert Dru.
Gilbert Dru, ouais, il y a un G du coup, je sais pas.
Général, ouais, tout de suite.
Dans le 7e, que ce soit des goûters solidaires ou autres, elle salue en particulier la mobilisation de l'école Charles Perrault et Anatole France à Vénissieux, ainsi que l'école Jean Moulin à Vénissieux, qui a fait plier la préfecture en obtenant un hébergement pour l'une des deux familles. Le collectif Jamais sans toi tient également à saluer les familles qui aident par le MRAP à signer la préfecture du tribunal administratif pour répondre à cette gestion au thermomètre qui est contraire aux déclarations et de la ministre du Logement. Par cette procédure, des familles se sont ainsi vues proposer des solutions par la préfecture.
Donc voilà, et puis moi j'avais, on va continuer un petit peu sur, pas forcément sur l'hébergement, mais là par contre sur des migrants et des migrantes qui sont à la rue, plutôt par une bonne nouvelle, parce que je ne sais pas si vous avez vu dans les grandes agglomérations, c'est un peu à la mode, là où s'installent des campements, voilà, parce qu'il faut bien dormir quelque part, hein, donc on se regroupe et on essaye de monter une solidarité collective, et ben du coup les autorités trouvent le moyen du coup de mettre des grosses pierres de partout pour empêcher les gens de se coucher et de se regrouper. Et bien du coup sur Paris, parce que du coup ben, on peut appeler donc, du coup, des blocs anti-migrants, on connaissait les bancs anti-SDF, du coup c'est les blocs anti-migrants, et bien il y a une dizaine de tailleurs de pierre qui sont venus de toute la France, voilà, du côté de la Chapelle, dans le nord de Paris, voilà, et ils sont donné rendez-vous là-bas, et parce que depuis deux semaines, du coup, la mairie avait placé des blocs de pierre sous un pont, un lieu où des réfugiés avaient l'habitude de passer la nuit aux abords du centre humanitaire pour les migrants. Et ben du coup, en deux heures, ben, ces professionnels ont eu le temps de faire du bardage, une technique qui consiste à déplacer les pierres pour faire de la place aux migrants. Donc voilà, l'objectif, et ben, nous, l'objectif des tailleurs de pierre, donc nous souhaitions intervenir sur ces blocs afin de laisser de l'espace aux personnes sur place, mais aussi de les sculpter pour le symbole. L'idée était de graver les pierres pour donner du sens à ce tas de cailloux en inscrivant par exemple des noms de personnes décédées en mer ou des citations. Voilà, une action plutôt positive, voilà, et solidaire avec les migrants.
Donc oui, voilà, moi je vais encore parler des migrants, mais d'une action beaucoup moins positive, du coup, bah, des rafles qu'il y a eu la semaine dernière aux abords du centre Emmaüs, à Porte de la Chapelle, donc
De nouveau, ouais, du coup c'est encore dans le coin, ouais.
Donc ce mercredi 22 février, nouvelle rafle visait les migrants regroupés à côté du centre Emmaüs de la Porte de la Chapelle, auquel ils n'arrivaient pas à accéder, pour gérer, entre gros guillemets, les migrants qui espéraient trouver une place au chaud dans le centre, dit le premier accueil de Porte de la Chapelle. Les gros bras d'Emmaüs associés aux sbires de la mairie de Paris ou de la police nationale n'hésitent pas à utiliser des insultes et des pressions psychiques. Physique. Non.
Physique. Ah, c'était physique.
Problème de lecture. Ces maltraitances quotidiennes ne suffisent pas à décourager ceux qui espèrent trouver l'aide qui leur a été promise ou tout simplement une place au chaud. Ils sont désormais environ 400 à dormir aux abords du centre en attendant qu'on veuille bien leur considérer une place. 400 personnes, c'est trop visible pour la préfecture et la mairie de Paris. Ainsi, le mercredi 22 janvier, une opération de police, que l'on peut qualifier de rafle, a eu lieu aux abords du centre. Au petit matin, avant la sélection de 9h, heure à laquelle les portes s'ouvrent, ou pas d'ailleurs, pour laisser entrer, toujours ou pas, un nombre indéterminé et jamais connu à l'avance des personnes. Cette rafle a permis de relever les empreintes et les identités de dizaines de migrants, de distribuer des dizaines de QTF, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est obligation de quitter le territoire français, et d'enfermer 15 personnes au centre de rétention de Vincennes. Ceux-là avaient leurs empreintes enregistrées dans la base de données Eurodac et n'avaient pas pu entamer leur démarche de demande d'asile en France. La préfecture de Paris a pris des décisions d'expulsion pudiquement appelées, entre guillemets toujours, arrêtés de transfert, comme contre eux. En effet, dans le cadre des accords dits de Dublin 3, toute personne souhaitant demander l'asile dans un pays de l'Union européenne est contrainte de le faire dans le pays par lequel il est rentré. Ainsi, quand elles arrivent en Europe, les personnes migrantes essayent d'échapper aux autorités pour ne pas laisser de traces de leur passage et pouvoir demander l'asile dans le pays de leur choix. Mais les contrôles aux frontières se renforcent toujours plus. Et les personnes sont souvent capturées et contraintes par la force de laisser leurs empreintes qui vont alimenter la base Eurodac. Ce samedi 25 février, 13 personnes enfermées à la prison pour étrangers de Vincennes comparaissaient devant le juge du tribunal administratif pour faire annuler les décisions d'expulsion prises à leur encontre après la rafle du mercredi 22. Alors que la préfecture considérait qu'elles avaient déposé une demande d'asile en Bulgarie, un jeune Afghan a pu expliquer comment on l'a forcé à donner ses empreintes, montrant les traces de morsures de chiens policiers et évoquant les nombreuses violences subies dans ce pays. Au fur et à mesure des audiences est apparu le fait que la préfecture de Paris avait pris les décisions d'expulser vers d'autres pays européens, sans même laisser la possibilité à ces pays de donner leur accord. De façon plus générale, les personnes raflées ont été prises dans les filets d'une procédure expéditive et stéréotypée, dans laquelle aucun de leurs droits, si minimalistes soient-ils, n'ont été respectés. Tels que par exemple le droit à une information dans la langue comprise. Au cours des audiences, les juges demandaient aux migrants certains documents, mais ceux-ci ne pouvaient pas être fournis. En effet, lors de l'opération policière, leurs quelques affaires et leurs papiers ont été laissés sur place et jetés à la benne. Plusieurs des personnes qui passaient ont témoigné de l'impossibilité de déposer leur demande d'asile en France. Impossibilité d'entrer dans le centre de premier accueil. Refus de prendre en compte leur demande au sein du commissariat après l'interpellation. Convocation à la préfecture à des dates lointaines. On peut craindre que cette opération soit la première d'une longue série, à l'image de ce qui s'est produit cet été et cet automne, quand la police effectuait des raids réguliers sur les campements. La nouveauté est que cela se produit à côté d'un lieu mis en avant comme dispositif de refuge et de protection des migrants. Dans la réalité, on a pu constater que ce lieu avait tout d'un centre de tri et d'identification qui permet de détecter les personnes ayant été contraintes de déposer leurs empreintes au cours de leur voyage afin de les empêcher de demander l'asile et de les regrouper en vue de faciliter une procédure d'expulsion. Derrière les obstacles au dépôt et à la demande d'asile, il faut aussi voir la volonté d'empêcher les gens de bénéficier de certains droits tels que l'allocation pour demande d'asile, donc qui est de 6,80€ par jour. Ce qui est déjà ridicule. C'est ridicule. Les 10 personnes pour lesquelles les juges ont annulé les expulsions vers les pays dits d'entrée ont donc été libérées du centre de rétention de Vincennes et s'en sont retournées porte de chapelle espérant accéder au centre dit humanitaire et de premier accueil. Les autres ont été reconduits au centre de rétention de Vincennes. Donc c'est...
Voilà, ouais. Puis quand même dans l'article là on rappelle un peu la procédure, mais que normalement même pour des personnes du coup qui dépendent de... ce protocole de Dublin, donc ça veut dire que le premier pays où on a pris tes empreintes, c'est là où tu dois faire ta demande d'asile, c'est que normalement, il devrait y avoir une demande, si la demande d'asile a été faite dans un autre pays, la demande devrait être faite par la France à cet autre pays si, on imagine quelqu'un qui était pris en Allemagne, a pris ses empreintes, a fait une demande d'asile et vient en France après, du coup la France doit demander à l'Allemagne si l'Allemagne est d'accord pour que cette personne-là demande l'asile en France. Et du coup, là, ce qui n'est vraiment pas le cas dans l'article, c'est-à-dire qu'il renvoie des gens dans les pays, j'en ai vu Bulgarie ou autre, alors que du coup, il y a cette démarche qui n'est même pas faite. Donc, c'est vraiment pour se débarrasser, faire peur, casser la solidarité, etc. etc.
Et sachant que la procédure du Dublin, en plus, c'est déjà quelque chose d'assez dégueulasse en tant que tel, et elle n'est même pas respectée.
Donc, voilà. Donc voilà, et ben on va se faire une page de lutte du coup parce que c'est déjà 20h38.
Eh oui, allons-y. Ça va vite. Hein. Donc des luttes, eh bien vous en voulez, vous allez en avoir. C'est toujours des luttes de février.
Bon, ben, 1er mars en même temps, ça va. Enfin,
oui,
ça va.
Faut bien terminer.
Oui, il faut faire. Ouais, ouais.
Voilà. Donc on va aller dans le Haut-Rhin à Bichem. C'est une usine, donc des usiniers et des usinières. Hein. C'est un vieux terme qui ne s'emploie plus. Je dirais plutôt des ouvriers et des ouvrières qui sont en grève chez Constellium. On y fabrique chez Constellium. Eh bien, on produit aussi des emballages en aluminium et des pièces de carrosserie. Voilà. Et on revendique pour les salaires de 1460 travailleurs et travailleuses. Et on revendique une hausse des salaires à 1,4%, œuvre donc des CFDT, CGT, CGC et autres FO, qui constituent l'intersyndicale quand la direction propose à l'arrache 0,8%, c'est royal, et qualifie ce 0,8% comme généreux au vu de l'inflation. Donc la grève depuis a démarré le 13 février et se construit petit à petit, une heure par équipe, une heure seulement je dirais, puisque le 3x8 est bien instauré dans cette boutique, et seule réponse patronale, c'est le dénigrement, et qui déplore aussi cette direction, cette volonté conflictuelle. Les salariés
salariés, ils sont pas malheureux non plus pour la direction, voilà, etc., etc. Une manifestation, c'est à Rion, dans le Puy-de-Dôme, une manifestation de soutien parce que des personnes se sont donc solidarisées aux 239 salariés de la CEITA, la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes. La dernière usine du nom, puisque ça avait été repris, la CEITA avait été repris par Altaldis, on se rappelle, hein, c'est une multinationale franco-espagnole. Et ensuite, ça avait été mis dans les mains de Imperial Tobacco, qui est devenu depuis Imperial Brands, voilà. Donc qui rachète tout ce qui est à sa portée. Donc prestations à Rion, protestation pardon à Rion, car en plus des 239 salariés en danger, il faut ajouter évidemment les travailleurs intérimaires, travailleuses et travailleurs intérimaires, les salariés des prestataires, etc. Grève le 16 février, refus de perdre l'emploi, de perdre l'activité qui sera probablement délocalisée, et l'union départementale CGT qui gueule évidemment au charron. Et il y a de quoi, puisque le groupe CETA, enfin le groupe plutôt tobacco, machin, a reçu du fric public avec le CIC, le crédit d'impôt, recherche, etc. Ce qui représente quand même des millions d'euros et par centaines de millions d'euros quand même, avec un PSE aussi également installé qui est non satisfaisant. Et il faut faire fi ça car la fermeture, c'est pour le deuxième semestre de 2017. Donc ça tombe justement en plein dans les vacances d'été. Et ça calme évidemment, on le connaît, hein, c'est une tactique patronale qui est courante. Ça calme les ardeurs rebelles, je dirais. En 2015, il y a eu quand même 2,3 milliards de bénéfices et augmentation par contre pour les actionnaires de 10% sur les dividendes en 2016. Ça fait toujours plaisir. Maintenant, c'est à Andance, à Féline et à Saint-Désirat. Ce sont des communes situées dans le nord de l'Ardèche qui hébergent le roi du plastique et j'ai nommé Plastique Omnium avec deux jours de grève au 20 février sur les trois sites. Et là, ce sont les négociations annuelles obligatoires qui sont en souci. 5% demandé par les salariés, 1,3% pour la direction. Finalement, les poires, c'est plutôt affectueux ce que je dis, comme d'habitude, ont été partagées en deux, puisque ça sera au bout du compte 2,5%. Une sorte d'accord entre l'intersyndicale et le staff. Toutefois, les salariés devront se prononcer quand même, donner leur avis. Chose pas simple d'ailleurs, car la production se fait en trois équipes, là aussi, matin, après-midi et nuit. Alors, la réponse devait arriver donc ce mercredi, je crois. Si, ok, ça sera une reprise du travail. Alors, précisons que la rancœur, quand même, chez les salariés est d'autant plus sérieuse qu'ils et elles ont dû faire des efforts pour éviter le coulage de l'entreprise. 900 salariés sur les trois villes, avec des accords, quand même, qui avaient été pris par l'intersyndicale avec la direction sur la compétitivité en 2012, le gel des salaires et la suppression de RTT. Bref, pour un retour, tout ça pour un retour à l'équilibre financier promis en 2015. Eh bien, en fait, d'équilibre, ce sont les salariés qui font de la corde raide depuis 2012. Il y a eu beaucoup de départs volontaires, d'où une charge de travail évidemment supplémentaire pour ceux qui restent. L'intersyndicale CGC, CFDT et la CGT revendiquent une prime de 1000 euros pour tous et toutes. À Valence maintenant, dans la Drôme, donc à la mi-février, avec une grève chez le Grand, je dirais plutôt la grande société Thales Avionique. 80 salariés sur 570 ont grévé, ça fait pas beaucoup, ça fait pas l'aubé. Et ils ont grévé seulement une heure seulement encore. Le mécontentement, c'est sur l'augmentation salariale et les dividendes des actionnaires qui sont, eux, gras. C'est-à-dire à la fois les actionnaires et les dividendes, bien entendu. Le faible pourcentage des grévistes s'explique par le fait que les employés sont pour la plupart des cadres. Donc un cadre, ça se conditionne par l'esprit de société en un, et de fait par lui-même aussi en deux. C'est mathématique. Et c'est pas une généralité, je dirais quand même. Aujourd'hui, ça déborde du cadre, précisément. Et les actionnaires qui ne sont pas forcément cadres en caisse et ce n'est pas une heure grévée qui va leur vider les poches, bien entendu. La CGT, la CFDT est faux et super. Donc, super, c'est un syndicat unitaire et pluraliste des personnels de Thalès, hein, pour tout vous dire, qui est membre de Solidaire. Voilà, et la CGT. Donc, selon Super, donc selon ce syndicat de Solidaire, eh bien, les revendications, bah, c'est 3% en augmentation générale, 3% en augmentation individuelle, avec un talon à 100 euros, le 13e mois à 2850 euros minimum, s'il vous plaît. Les propositions de la direction, bah, sont tout autres, hein, vous l'imaginez. Des départs, bah, des départs aussi dans les conditions de travail, hein, sont non remplacés. Des CDD qui restent des CDD. Ça sent le, bah, ça sent le brûlé chez Thalès à Valence, qui fait, si vous voulez que je le rappelle, bah, ils font plutôt dans l'aérospatiale, l'aéronautique, la défense aussi, oui, et les défense. Transports. Il y a 61 000 salariés, c'est un chiffre de 2014 sur 56 pays. Voilà pour ce qui est de cette première page. Oui, quand même.
C'est super.
Beaucoup de gens qui fabriquent des engins qui pètent.
Du coup, ce que je propose, c'est que comme c'est déjà un peu tard, peut-être qu'on fasse peut-être pas la deuxième pause musicale, parce que c'est déjà moins quart. Toi, tu voulais du coup une petite info.
Moi, j'ai une toute petite info, c'est qu'il y a eu donc c'était le 27 février, donc il y a eu aux États-Unis une femme trans qui a été assassinée encore. Donc voilà, donc une femme trans qui était noire, voilà, donc c'était à la Nouvelle-Orléans. Voilà, et donc pour les personnes qui ne savent pas trop un peu comment ça se passe pour les personnes trans, généralement les assassinats des personnes trans, c'est assez régulier et généralement c'est dans c'est très souvent des crimes assez crapuleux pour la plupart, imaginons traîner derrière une voiture, ce genre de choses, et c'est vraiment enfin, que c'est pas anodin, voilà. Et voilà un peu pour la petite info.
Voilà. Sachant qu'il y a une date annuelle, hein, le TIDOR, du coup, qui voilà, permet de se remémorer. Tous ces morts et ces mortes chaque année. Moi, du coup, des petites brèves, on va plutôt faire des petites brèves maintenant, parce que du coup, on a déjà bien avancé dans l'émission. Voilà, c'était pour une petite brève trouvée sur les 160 ans. Donc après son abolition, ben, l'esclavage des Roms, ben, elle reste tabou. Des Roms esclaves, une réalité cachée aujourd'hui mise en lumière. Il y a 160 ans, les principautés roumaines mettaient fin à 5 siècles d'esclavage des Roms. Aujourd'hui, cette page sombre de l'histoire passée sous silence dans les manuels scolaires reste une plaie ouverte. Et ben, pour se remémorer ce passé, des commémorations sont organisées au musée de la culture Rome, donc c'est à la périphérie de Bucarest, hein, c'est un peu long mais on donne la nouvelle quand même. Là, une poignée de jeunes membres de l'association Romano Boutique ont aménagé un espace de rencontre et de discussion autour de la discrimination dont ils sont victimes. Pendant 500 ans, nous avons été des objets vendus dans les marchés aux esclaves, lance Cyprian Nicula, 35 ans, fondateur du musée. Nous avons été officiellement libérés en 1856, mais nous sommes encore captifs des mécanismes hérités de l'esclavage. Voilà, on vous laisse après vous renseigner un peu plus là-dessus. Moi du coup j'avais deux trois petites nouvelles. On avait trouvé aussi du coup qu'il y avait un patron là qui s'était fait condamner parce qu'il avait violenté deux salariés et syndicalistes de la CGT pendant le mouvement contre la loi travail. En gros, il y a eu un barrage routier par les syndicalistes, il était descendu, s'en était pris du coup à deux syndicalistes et a voulu leur rouler dessus, a voulu forcer le barrage. Donc voilà, donc il a été condamné et c'est plutôt bien, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup. Donc voilà, par contre une mauvaise nouvelle parce que c'est une première. Et ben il y a le tribunal de Boulogne-sur-Mer qui a interdit à un soutien des réfugiés de parler à la presse. Donc Mathieu, qui est un soutien actif donc des réfugiés, dans le cadre de son contrôle judiciaire, un juge donc, lui a donc interdit d'entrer en contact avec tous les journalistes. Donc c'est forcément une atteinte à la liberté. C'est indigné le président des syndicats des avocats de France. Donc voilà, donc lui, il avait été mis en examen pour avoir aidé des amis migrants à traverser la Manche en canot pneumatique. Donc ce soutien assez actif dans la jungle a écopé donc du coup d'un contrôle judiciaire très serré. En août dernier, il avait été arrêté à son domicile avant de passer devant un juge. Interdiction de se rendre à Grande-Synthe ou à Coquelles, à quelques mètres de Calais, sauf pour prendre l'autoroute. Interdiction de contacter ses complices présumés, entre guillemets, bien sûr, trois petits points. Et donc, le plus original, donc, c'est cette interdiction formelle de parler avec tout journaliste. Donc, voilà, c'est quand même assez fou, ça, cette interdiction-là. On se demande où on va avec tout ça. Ensuite, je voulais vous faire vite fait, du coup, vous avez entendu sûrement parler de cette manif à Nantes, du coup, pour la venue de Le Pen. Donc, c'était samedi dernier. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Hein. Il y en a beaucoup qui parlent même de guerre civile. Du coup, ça y est, en France, c'est parti. Hein, merci Fillon, voilà tout ça. Du coup, là, pour parler un petit peu, il y a des petites vidéos qui tournent quand même ici, parce que comme d'habitude, on le rappelle, hein, par rapport aux manifestations, il y a différentes méthodes d'encadrement, hein, pour les forces de l'ordre. Il y a la méthode soft, entre guillemets, c'est-à-dire que les forces de police sont très loin devant le cortège, très loin derrière, et du coup ne mettent pas de pression. Et généralement, dans ces cas-là, ça se passe plutôt bien. Après, il y a la technique un peu plus rapprochée, avec on serre un petit peu la fin de cortège, on serre aussi un peu le début du cortège. Ensuite, il y a l'encadrement sur les côtés, rapproché, avec la bague qui tourne, etc., etc. Et là, donc, il y a une petite vidéo qui tourne quand même avec une confiscation sans règle d'un char, du coup, qui était au milieu de la manif avec des personnes violentées, voilà, par la bague, même un petit baqueux qu'on traite de fasciste et qui est très fièrement dit « Ouais, et alors ?» Donc voilà, et ensuite du coup une charge de la BAC en fin de manif sur la fin de cortège, vous voyez ça, enfin, après vous demandez pourquoi ça part en sucette des fois, mais bon voilà. Hein. Il y a quand même des provocations dont ne parle pas la presse forcément, la presse habituelle. Et c'est un peu la même chose du coup pour les blocages de lycéens, là j'ai trouvé un communiqué des lycéens et étudiants de Jules Ferry, voilà, qui étaient présents pour bloquer le lycée et lutter contre la violence d'État. Du coup, c'était une petite trentaine, hein, lycéens et étudiants de classe préparatoire qui sont donnés rendez-vous à bord du lycée. À 7h30, donc décision de commencer à bloquer. La situation était calme. Quelques poubelles bloquaient l'entrée. Une banderole a été déployée avec marqué « Sans justice, pas de paix ». Et la proviseure était d'accord avec un blocus calme et revendicatif tant qu'une entrée est laissée aux élèves de Cagnes qui sont en concours blanc. C'est bien ce petit blocage avec une entrée, c'est magnifique. Donc, mais très vite, du coup, des fameux agents de la fameuse BAC toujours agressent des élèves. Ils enlèvent des poubelles et frappent les élèves qui approchent trop près de l'entrée principale du lycée. 8 agents de la BAC qui n'avaient pas de brassard et une petite dizaine de policiers en uniforme se positionnent en face du lycée. Mais lorsqu'une quinzaine de lycéens arrivent avec quelques barrières pour rendre le blocus visible par tous, bah, la BAC les frappe en poussant les barrières sur les lycéens et aussi en les cognant contre le mur. La BAC chasse ceux qui s'approchent trop près d'eux. Un agent crie à un élève « Viens pas où je te la mets ». C'est très mignon. Parmi les lycéens ainsi violentés, alors que le blocus n'était en aucun cas violent, l'un d'eux lance un débris de verre en direction de la BAC, mais rate sa cible et son projectile, malheureusement, touche le haut du crâne de la proviseure qui saigne. La blessure est infime, celle-ci est prise en charge par les pompiers, parce que ça, quand vous écoutez la presse le soir après les blocages, c'est une proviseure a été agressée du coup par des lycéens. Voilà, mais pour les agents du pouvoir, c'est une victoire. La faute sera rejetée à des fameux casseurs, entre guillemets, à des déscolarisés, sur les mots du CPE, moyen pour lui de ne pas trop entacher la réputation de l'établissement. Les médias ne retiendront donc que ce jet de projectile et pas les violences des policiers. Donc nous, lycéens étudiants, avons été choqués par la violence policière et nous déplorons la légère blessure de la proviseure en espérant qu'elle se remette très vite. Nous, lycéens étudiants, condamnons la pression de la BAC aux abords du lycée. La police en civil était présente devant l'établissement depuis vendredi dernier. Nous, lycéens étudiants, pensons que nous devons continuer de lutter contre les violences d'État, contre les intimidations des administrations et des policiers. La BAC ment, la BAC frappe, la BAC fait peur aux jeunes lycéens qui se rendent chaque jour en cours pour étudier. Justice pour Théo, justice pour Adama, justice pour tous et tous les autres. Je fais très vite parce que du coup il y a eu quelques intox aussi, hein, pas mal de faf en ce moment, notamment sur le fameux Quentin le pompier. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Ah du oui, coup Quentin le pompier, du coup, qui avait été blessé du coup par des fameuses entre guillemets racailles. Donc voilà, avec une vidéo qui disait mais voilà, Théo lui a droit à visite du président et ce pauvre pompier n'a droit à rien. Sauf que ce brave pompier, c'est une image qui date un peu, hein, de fin 2013 et non pas de cette année-là. Et ce brave pompier avait été blessé, je vous le donne dans mille, par des policiers. Voilà. Hein, c'est beau ça.
Une manifestation.
Voilà. On vous conseille aussi quelques articles donc toujours malheureusement de violences policières, donc notamment lors de la dispersion de la manif lycéenne à Nation du jeudi 23 février. Du coup, parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui commencent à arriver, des vidéos aussi. On vous laisse lire ça. J'ai trouvé du coup ça sur Parulut Info. Et aussi, ouais, toujours violence policière, voilà. Du coup, il y a eu un changement de loi avec le port d'armes autorisé maintenant, notamment pour les policiers, même quand ils ne sont pas en service. Et ben là, un policier a fait usage de son arme, mais du coup, pour en pleine rue. Pourquoi? On vous le donne dans mille, pour tuer son ex-compagne. Donc voilà, dans le cadre de l'état d'urgence, le port de l'arme de service par les policiers lorsqu'ils ne travaillent pas a été largement assoupli. Et ben un policier de 35 ans a tué samedi son ex-compagne âgée de 25 ans de 3 balles tirées avec son arme de service à proximité d'un rond-point d'Alès dans l'Hérault. Après le drame, il s'est rendu au commissariat de la ville et s'est constitué prisonnier, c'est magnifique. Donc voilà, il aurait fait donc à 3 reprises, donc voilà, merci pour ce changement de loi. Et on vous lit vite fait un petit texte et après je redonne la parole à toi pour faire quelques luttes pour finir. Voilà, par rapport au projet de loi de sécurité publique, on en a parlé un petit peu la semaine dernière. Ça, c'est le communiqué de l'AG contre l'état d'urgence et les violences d'État de Montpellier, dont fait partie la CGA. Le 16 février 2017, le projet de loi portant sur la sécurité publique, entre guillemets, a été définitivement adopté au Parlement avec 34 pour et 5 contre, hein, soit quand même 39 députés sur 577. Ce texte élargit les possibilités d'utilisation des armes à feu de la police nationale, mais également, de la douane et de la police municipale quand celle-ci est armée dans de moindres mesures. Le cadre légal d'utilisation des armes par la police se cadre sur celui de la gendarmerie. Cela va dans le sens de la militarisation de la société que l'on connaît depuis plus d'un an d'état d'urgence. Avec cette loi, la police pourra faire feu pour défendre un terrain occupé si un suspect ou une suspecte tente d'échapper à leur garde ou à leur investigation, à condition d'avoir des raisons réelles et objectives d'estimer probables, ça ils pourront toujours maquiller ça après, hein, que le ou la suspect les menace ou menace autrui. En plus de l'élargissement du champ de tir de la police, la loi prévoit de doublement des peines pour outrage à agent et outrage en réunion en les calant sur celles pour outrage à magistrat, c'est-à-dire jusqu'à un an d'emprisonnement, quand on sait que toutes ces outrages à agent ou violences sont maquillés, enfin sont inventés très souvent. Voilà, ça va faire de la peine qui va tomber encore. Et donc l'Assemblée Générale de Montpellier contre l'état d'urgence et les violences d'État dénonce l'officialisation d'un permis de tuer pour la police. Nous dénonçons le prétexte du terrorisme encore une fois mis en avant comme pour l'état d'urgence, alors que nous voyons bien chaque jour qui sont les cibles prioritaires de la police. Les quartiers populaires comme Aulnay-sous-Bois et tous les mouvements de contestation sociale. Nous dénonçons le fait que le gouvernement reprenne à son compte les demandes des syndicats de policiers d'extrême droite, Alliance, Synergie Officier et du FN. Donc voilà pour ce petit communiqué de l'Assemblée contre l'état d'urgence de Montpellier.
Merci. Quelques luttes encore, si je peux. On va partir à Reims. On n'a pas fait péter le champagne à Reims. Hein, mais la grève chez la deuxième banque d'épargne en ligne. C'est une banque qui est classée au niveau mondial, hein, oui, parade mondiale. c'est chez ING Direct. Voilà, 50 employés, 50 personnes qui vont se pointer chez Pôle emploi d'ici peu de temps. Ouais, parce que les 50 ont appris par erreur et par mail que les bureaux allaient fermer. Donc c'est une nouvelle de novembre dernier. Le temps de digérer et blanc en février, c'est la grève. C'était le 21 février. L'antenne de Reims a ouvert en 2007. Le mail en question expliquait à la direction comment tenir le coup en long, en large et en travers jusqu'à la phase finale. Les salariés étaient bien ciblés après l'annonce faite, démotivation, grève, dégradation de la relation, etc. Le climat social français, quoi, en deux mots. On fait de la politique dans les entreprises. Elle est interdite pour les travailleurs et travailleuses, à moins que ça soit de la psychologie d'entreprise. Comme sur le mail, ce conseil que je vais vous citer, toujours employer le conditionnel, c'est seulement un projet. Ou comment réussir un PSE en beauté, évidemment. Trois sites, centres qui sont des centres d'appel de la banque, seront touchés au printemps prochain. 70 postes, mais c'est un projet, évidemment. La fautive de l'envoi du mail, c'est simplement la directrice des ressources humaines.
C'est bien, elle va être très appréciée par la direction, je pense.
Voilà, et donc c'est une erreur, évidemment. Hein. Il y a eu...
C'est un acte de sabordage, peut-être qu'elle l'a fait exprès, on ne sait pas.
Je ne pense pas.
Un DRH qui...
Donc il y a eu, après, une manif à Paris le 22 février. Et pour parler un peu des bénéfs et parler pognon, les bénéfs de ING, c'est quand même 4,65 milliards d'euros en 2016. Soit 16% de mieux. Est-ce que j'en refais une mot petite?
Ouais, vas-y.
Allez, avec la Mambrole sur Choisille.
Ouais, fallait la faire, ça. Voilà, c'est ça.
Ça fait partie des petits noms que j'adore, ça. Mais pourtant, il y a la grève, hein, quand même. C'est en Touraine, en fait, pour tout vous dire, c'est en Indre-et-Loire, avec une grève des 130 salariés dans un centre de réadaptation et de rééducation qui s'appelle Bel Air, pour une réévaluation de leur salaire. De leur prime à hauteur de 500 euros, la direction radine un tantinet à 150 euros quand les toutbibs, les médecins de l'établissement, ont palpé, eux, 5000 euros. Et elle n'est pas finie, l'histoire, puisque, évidemment, la grève continuait. À Salès, la source, c'est dans l'Aveyron, avec l'hôpital de Cougourous, grève pour dénoncer les conditions de travail avec le syndicat EFO et aussi des congés qui sont en berne.
Idem à l'EHPAD de Capdenac, dans le Lot, même motif, même punition, réduction de personnel à la journée, où les employés sont obligés, c'est eux qui emploient le terme, hein, de gaver les résidents et les résidentes aux heures de repas, car il faut faire vite. Donc il y a le burn-out qui s'installe parmi le personnel, et ce burn-out est en augmentation constante. À Firmy, également dans l'Aveyron, bah, c'est dû pareil au même, c'est un autre EHPAD, l'EHPAD Paul Mouisset, qui est en grève. C'est la CGT là, qui est associée donc, au personnel, avec des dégradations de l'accueil des résidents, des résidentes, les conditions de travail, etc. Donc, ils sont, elles sont 15 alors qu'il faudrait être 25. Et ici encore, on l'avait déjà entendu, ça, c'est que les non-qualifiés, donc les personnes qui ne sont pas qualifiées pour s'occuper des résidents et résidentes, c'est-à-dire les agents d'entretien, font le boulot donc, des personnels qualifiés. Alors, tout va bien pour la direction, évidemment. Hein. Il y a une demande ici de dialogue et d'embauche.
Bah oui, voilà. Bon, bah voilà, on va se quitter là-dessus, parce qu'il est 21h et puis la lumière du frigo... Et là, et donc, va enchaîner avec après nous. Donc voilà, on vous rappelle très vite les permanences de la librairie mercredi 17h, 19h, samedi 15h, 19h. Les cours de langue en solidarité avec les migrantes et les migrantes le lundi à 18h30. Ça se passe tout à la Plume Noire au 8 rue Diderot. Et on voulait finir du coup par un petit mot de solidarité avec la Maison des Passages qui a été attaquée ce week-end par nos amis les Bêtes. Donc voilà, un petit mot de solidarité avec ce lieu, encore un lieu militant, associatif, qui est attaqué. Voilà. Donc voilà, un petit mot de solidarité avec eux, voilà.
Puis si jamais vous voulez rejoindre les fronts de lutte, comme on disait, n'hésitez pas aussi à nous contacter. Donc il y a le front antiraciste, le front syndical,
le front antipatriarcal
et le front jeunesse. Voilà.
Et on vous dit à mercredi prochain. Salut.
Bonne soirée à toutes et à tous.